Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans La Curiosité. On est ensemble jusqu'à 22h et ça fait du bien de redémarrer la semaine. Ça va Sidonie?
Ah oui, c'est un bonheur de vous retrouver. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au programme. Les secrets d'une révolution, celle d'une crypto-monnaie, le Bitcoin, qui s'échange grâce à une banque virtuelle et collective qui est appelée la blockchain. Bon, tout ça, ça se passe sur RTL. Et grâce à nous, ce ne sera plus du chinois.
J'espère. Et puis, vous savez qu'on aime les destins extraordinaires et les héros français dans la curiosité. On va découvrir l'histoire de Jean Robic, vainqueur du premier tour de l'après-guerre, symbole d'une France meurtrie et qui se redresse.
Et d'abord, si on allait faire un tour dans le triangle des Bermudes?
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous pénétrez ici dans l'un des endroits les plus mystérieux et les plus méconnus de toute la Terre.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous sommes au fond de l'océan Atlantique, dans une zone géographique qui a enfiévré l'imagination de l'homme depuis des siècles, où des bateaux, des avions et des hommes ont disparu sans laisser de traces et sans raison apparente.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce nom, c'est le Triangle des Bermudes.
C'est donc un nom synonyme de mystère, d'énigmes non résolues. On vous emmène dans ce triangle des Bermudes sur RTL. Bonsoir Bernard Marc.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes historien de l'aéronautique, membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors on va d'abord commencer par se situer, on va faire un peu de géographie. Il est situé où alors ce triangle des Bermudes?
Bah écoutez, il est situé là où on veut qu'il se trouve, parce que en règle générale, il a une forme extensible, à souhait.
En fonction des disparitions, c'est ça?
Ah, ouais. C'est même pas un triangle?
Il n'y a jamais eu de forme triangulaire. La seule forme triangulaire que je connaisse au triangle, si on peut l'appeler ainsi, c'est la trajectoire que suivaient les avions qui ont disparu, le fameux Avenger du vol 19.
Ouais.
C'était
ça,
une trajectoire triangulaire. Ouais. Mais sinon, non, c'est des fois carré, c'est des fois rectangulaire, et des fois ça va jusqu'à New York, au large de New York. Des fois, ça inclut les Açores. Mmh. En fait, c'est plutôt les Bahamas, les Açores, les Caraïbes. Voilà, au large de la Floride. Mmh. Mais certainement pas le golfe du Mexique.
Alors, depuis quand les médias parlent de cette zone? Et puis, quand est-ce que ce terme-là, triangle des Bermudes, a été inventé?
Les médias ont commencé à en parler au début des années 50. Mmh. D'ailleurs, c'est un certain George X. Sand, un nom assez curieux, qui a commencé à dire: il y a un coin curieux au large de Floride où disparaissent des navires et des avions. Il faisait allusion à ce fameux vol 19. Et puis quelques années plus tard, en 1964, dans la revue Argosy, on a un certain Lodis, qui était un chercheur, qui a baptisé la zone Triangle des Bermudes.
Article, le titre, c'est le mortel triangle des
Bermudes,
c'est ça?
Le mortel triangle des Bermudes, qui a attiré, bien sûr, englouti pas mal de lecteurs. Et il se trouve, ce qui est amusant, c'est qu'il a voulu revenir sur son triangle. Il dit, c'est pas un triangle, bien sûr, mais ça l'a arrangé, finalement, par rapport au succès qu'avait eu l'article dans cette revue. Donc, le nom triangle s'est imposé de ce fait.
Alors, ce vol 19, là, dont vous nous parlez depuis un petit instant, on va le raconter tout de suite, Bernard Franck. C'est l'une des histoires que vous détaillez dans votre livre, Le Triangle des Bermudes et autres histoires vécues, coécrit avec Jean-Claude Bourret et publié aux éditions L'Archipel. Alors, ça commence quand, Sidonie?
Alors, ça commence un 5 décembre 1945 avec une mission de l'US Navy qui décolle de la base de Fort Lauderdale. Nous sommes en Floride.
Alors, c'est une base de l'aéronavale américaine. La guerre est terminée. On continue l'entraînement, bien sûr. Les Américains sont en train de démanteler petit à petit les installations radars et aéroportuaires militaires de la côte Est, puisqu'il n'y a plus de danger du côté de l'Europe. Et ce jour-là, ce fameux 5 décembre, un groupe de jeunes pilotes, déjà assez expérimentés, ils ont quand même 300 heures de vol, doit faire un vol d'entraînement à la fois au bombardement et surtout à la navigation au-dessus d'une surface liquide. C'est pas très facile.
Alors à la tête de ces pilotes, il y a un commandant, le commandant de la mission, il s'appelle le lieutenant Taylor, lui aussi il est expérimenté?
Ah, Charles Taylor, c'est un vrai pilote, c'est un amoureux de l'air, c'est surtout un vétéran. Il a fait la guerre du Pacifique et il est non seulement compétent, c'est pas l'homme qui a le doigt sur la couture du pantalon devant la hiérarchie, mais il sait prendre des initiatives et il a montré au combat, et là on a eu beaucoup de témoignages au combat, ce sont des combats terribles qu'il a menés contre les navires japonais, il a été exceptionnel.
Alors ce vol, il va se dérouler sans histoire, jusqu'aux exercices de bombardement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
En fait, c'est un vol donc en trois tronçons, qui doit aller d'ailleurs vers les Bahamas tranquillement, donc à mi-chemin. Sur la route des Bahamas, eh bien, il y a ces deux îlots sur lesquels ils doivent procéder, les avions doivent procéder à des bombardements. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Mais il faut savoir, c'est une question de météo, il faut savoir qu'au décollage, on leur a dit, la météo, c'est bien. Mais c'était bien à Fort Lauderdale, c'était bien. Au-dessus de Fort Lauderdale, c'était bien. Mais là-bas, là où ils se rendaient, la météo était déjà changeante, la mer un peu agitée. Et les avions sont partis, ont commencé, bien sûr, cette série de bombardements, on sait qu'ils les ont menés, arrivés vers les Bahamas, au-dessus desquels ils devaient remonter légèrement au nord. Là, il y a eu un changement de, sans doute, de météo, on le sait maintenant, un changement brutal, comme il y en a souvent dans cette zone. C'est, quand je vous dis brutal, c'est en quelques secondes.
Oui. Et du coup, ils changent de cap, c'est ça? Et on les perd de vue?
Parce qu'il faut savoir que quand ils décollent, quand ils ont décollé, ça c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les avions, c'était des casseroles qu'on leur avait données. C'était des casseroles. C'était des avions, c'était le premier modèle de ce type d'avion, avion torpilleur. En plus, ces avions avaient besoin absolument, pour ces vols au-dessus de la mer, d'une horloge, d'une montre et d'une carte de navigation.
Mais pardon, je vous interromps, qu'est-ce qui leur arrive à ce moment? Ils disparaissent des radars? Pourquoi cette histoire, elle vient illustrer le triangle des Bermudes?
Il n'y avait pas de radar, hein. On ne les suivait pas au radar. Ouais. En plus, les pilotes devaient se taire. Ils étaient censés être en mission de combat. Donc, on ne parle pas, on fait des signes d'un avion à l'autre. Donc, à un moment, effectivement, vers 15h30, on signale qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est le chef Charles Taylor qui l'annonce en disant « Je suis perdu ».
La théorie, c'est qu'ils ont perdu le contrôle de leur avion, que ce vol 19 et ses pilotes sont écrasés?
Non, ils ne se sont pas écrasés, puisqu'on sait qu'ils ont émis encore à 19h, de façon très faible. Mais ils se sont perdus, puisqu'on n'aura pas dit qu'il y avait des vents, de violents vents qui les ont déportés, et qui les ont déportés très certainement au nord-est de leur route. Et surtout, ils n'avaient pas les éléments, le Charles Taylor qui les emmenait, en quelque sorte, n'avaient plus les moyens de les guider au-dessus de l'eau. Ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus de boussole, ils n'avaient plus sa montre et ils n'avaient pas sa planche de bord. Ils les avaient oubliés. Mmh. Tout est dans un détail. C'est ce qu'il a. Il les a oubliés suite à une nouvelle qu'il a apprise un quart d'heure avant le décollage.
Eh ben ça, on va en parler tout de suite sur RTL de cette nouvelle. Et puis ensuite, vous allez voir que finalement, ce mythe du triangle des Bermudes, mais il remonte beaucoup, beaucoup plus loin jusqu'au XVIe siècle au moins. Oui. À tout de suite.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On se fait peur sur RTL, on défie le légendaire triangle des Bermudes avec notre invité, l'historien Bernard Marc. Alors on était avec ce vol 19 de l'US Navy, imaginez 5 avions qui décollent. On est le 5 décembre 1945, ils décollent de la Floride. Et puis là, ils vont se perdre au-dessus de ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Il faisait très beau quand ils sont partis. Et là, la météo s'affole et ils disparaissent. Alors, c'est pas forcément la magie ou la magie noire du triangle des Bermudes, mais on peut expliquer cette disparition notamment en raison d'une nouvelle que le pilote, le commandant, aurait appris quelques minutes avant de disparaître. Nous en étions là dans votre récit.
Alors, quand on vole au-dessus de la mer, un pilote a besoin de sa boussole, a besoin surtout de sa montre et d'une carte de navigation parce qu'en fonction de sa vitesse, il peut calculer sa distance. Alors là, il se trouve que le commandant qui dirige tous ces avions, Charles Taylor, n'a pas sa montre, visiblement, et il n'a pas sa carte de navigation. Comment un homme aussi responsable a-t-il pu les oublier? Tout simplement, peut-être un quart d'heure avant de décoller, cet homme qui adore l'aviation, qui voulait voler, etc., demande à ne pas voler. Il vient de recevoir une lettre et on a le témoignage d'un homme qui l'a vu ouvrir cette lettre. Il a été bouleversé au point qu'il s'est dirigé vers l'officier chargé des opérations. Il a dit, écoute, aujourd'hui, là, je ne vole pas. Je ne le prends pas.
Il y avait quoi dans cette lettre?
Il y avait une nouvelle qui l'a bouleversé,
Et on ne le sait pas ?
On sait maintenant, on a un doute, on a même un doute très fort, c'est même très très fort, parce qu'il y a eu plusieurs interprétations qui ont été données, on dit ce jour-là il n'était pas bien, il était en colère, il était bourré, enfin, il y a parce qu'il y en a beaucoup qui buvaient avant de décoller.
Et alors quelle est l'explication la plus plausible ?
Alors,
avec 70 ans de recul.
Je vais anticiper, enfin, je vais aller plus loin dans l'histoire. Il se trouve qu'après sa disparition, bien sûr, sa mère a voulu savoir ce qui était arrivé. Ouais. Elle a demandé, elle n'a pas accepté les rapports qui chargeaient Taylor, qui le rendaient responsable de la disparition. Il y en a eu un premier de 500 pages, un deuxième moins gros, puis un troisième qui le déchargeait en quelque sorte. Ouais. Mais la mère a voulu quand même comprendre ce qui était arrivé. Elle a fait des recherches et ensuite, elle s'est rendue sur les lieux où il avait vécu ses postes précédents. Et il faut savoir qu'il venait d'arriver à Fort Lauderdale. Il était arrivé fin novembre, pratiquement.
Donc, et auparavant,
il était à Miami, donc en poste. Et quand elles sont arrivées, plus de 3 ans après les faits, quand sa mère et sa tante sont arrivées à Miami, elles ont été dans la maison qu'il occupait. Et là... Et ça m'a, c'est dans une lettre que j'ai découvert ça. Ça m'a aussi touché. Et j'ai une sorte de conviction qui est née.
Alors dites-nous.
Il y a une jeune femme qui est sortie, qui s'est précipitée dans les bras de la mère et qui s'est serrée très fort contre elle en pleurant.
Elle était jeune, ça pouvait être sa femme ?
C'était sans doute sa compagne.
Ouais.
Mais surtout, ce qui, moi, m'a surpris, c'est qu'il ait fait allusion à un petit bonhomme de 4 ans.
Donc il a appris la naissance,
et
ou en tout
il
cas...
il devait avoir appris ce jour-là qu'il allait être sans doute papa. Voilà, c'est ce que j'en ai déduit, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Ça fait partie des mystères donc, de ce triangle des Bermudes, vous nous l'avez dit, un terme inventé par un chercheur américain au milieu des années 60. Pourtant, cette zone, elle est connue des marins...
Oui.
Depuis très très longtemps, depuis au moins le 16e siècle,
Oui.
Ou 15e siècle, comment on l'appelait ? On l'appelait l'île des démons, c'est ça ?
Les Bermudes, oui, c'était l'île des démons. Oui. Il y a même Shakespeare qui s'en est un peu inspiré, parce que dans une pièce qu'il appelait La Tempête, il disait que c'était l'île aux éternelles tourmentes. Mm. Enfin, c'est vrai que c'est des zones où l'aérologie changeante, la météorologie changeante, vous avez une tempête. D'ailleurs, ce jour-là, le jour de la disparition, il y avait un porte-avions sur zone qui était le Solomons. Et tandis qu'on était en train de parler de vaguelettes à Miami, le porte-avions annonçait des vagues de 15 mètres. Si fait, les avions ne pouvaient pas s'en sortir, parce que même sur une mer calme, un avion de ce type coulait en 30 secondes.
Donc ça, c'est déjà une première explication très rationnelle des nombreux accidents ou disparitions qui sont intervenus dans cette zone. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais Alain, qui nous appelle de Saint-Malo au 3210, dit d'où vient le nom des Bermudes. Il dit le premier à s'être écrasé était un Espagnol, M. Bermudez. Il s'est échoué sur les rochers dans cette zone-là. Est-ce que vous confirmez cette information?
Merci.
En tout cas, elle est belle.
Merci pour cette nouvelle piste.
Merci Alain, parce que c'est une piste passionnante.
Bernard Marc, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on sait quand même qu'il y a des raisons météorologiques et pas fantastiques comme on croyait tout petit à ces disparitions dans le triangle des Bermudes, et est-ce que les pilotes aujourd'hui ont peur encore de ce triangle ou en tout cas de cet espace dans l'Atlantique entre les Bahamas et la Floride ?
Non, enfin, sur les avions de ligne, aucun risque. C'est équipé de radars météorologiques qui détectent tout.
Donc on traverse souvent le triangle des Bermudes
tout le temps.
C'est pas une zone qu'on évite.
France, par exemple.
Et surtout, vous avez la chance d'avoir des copains qui ont un petit avion de tourisme, un petit bimoteur, vous faites de l'île en île, c'est très amusant de le faire, en pleine zone du triangle des Bermudes.
Mais c'est dangereux, vous dites qu'il y a
des
modifications météorologiques terribles.
Je maintiens qu'il y a, personnellement, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est illustré par un cas dans le livre, et c'est quelque chose...
Ah non, mais il y a des mystères, on va continuer de le raconter, mystères.
Il y a un vrai mystère, mais là...
Le triangle des Bermudes, publié aux éditions de l'Archipel, ce mystère, vous allez nous le raconter. Allez, dans une minute, restez avec nous sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le triangle des Bermudes, ce nom convoque immédiatement dans notre esprit un cortège de tempêtes meurtrières et d'accidents d'avions inexpliqués. Notre invité a enquêté sur ces disparitions mystérieuses pour un livre publié aux éditions de l'Archipel. Bernard Marc, vous nous disiez juste avant la pause qu'il y avait une histoire qui était troublante, c'est celle d'une femme, d'une pilote chevronnée, c'est ça, qui faisait quoi? Qui faisait avion-taxi?
C'est une femme qui s'appelle, qui s'appelait Caroline Cascio, qui était pilote d'avion-taxi, qui avait l'habitude de, au début des années 60, mais là, l'affaire nous transporte en 1964. Et c'est une femme qui avait l'habitude de circuler entre les îles des Bahamas. Et un jour, elle emmène un client habituel d'ailleurs, elle l'emmène, un beau temps, tout se passe bien. Mmh. Elle arrive en vue de l'île Grand Turc, bon, bah, c'est bien, tout va bien. Elle fait son annonce pour l'atterrissage, puis on lui répond pas. Puis surtout, elle regarde et elle voit que y a pas d'installation. Son avion, elle continue d'avancer au-dessus de l'île et elle dit à son passager, mais regardez. Et lui, il regarde aussi. Et pendant ce temps-là, on les entend. Hein, le micro est ouvert. On les entend à la tour de contrôle. Ils ne voient rien. Il n'y a pas d'installation, pas de route, pas de maison.
C'est-à-dire que cette île qui est normalement peuplée, habitée, avec une piste d'atterrissage, etc.
est déserte. Alors, elle a le réflexe qu'aurait un pilote dans ces mêmes conditions. On prend dans une zone où il y a plusieurs îles. Mmh. On prend de l'altitude pour essayer de voir la forme générale de l'île. Et là, en prenant de l'altitude, on sent que la jeune femme est gagnée par une certaine appréhension, parce que c'est bien l'île sur laquelle se trouve l'aéroport où elle doit se poser. Or, il n'y a pas d'aéroport.
Est-ce qu'il va finir par apparaître, cet aéroport, ou il ne va jamais apparaître, et puis cette pilote taxi va devoir faire demi-tour?
Alors, elle va devoir, justement, comme elle a suffisamment de carburant, elle décide de rebrousser chemin. Et là, on la voit, pourtant, elle a tourné un moment, on lui a fait des signes, on lui a envoyé des messages. Elle n'a rien entendu, mais elle, on l'entendait bien. Et elle s'éloigne.
Attendez, je vous interromps. Il y avait des gens au sol, sur cette île en question, qui voyaient l'avion.
Qui voyaient l'avion, oui.
Mais elle ne les voyait pas.
Pour elle,
cette île était déserte.
L'île était déserte. Il n'y avait rien. C'était état primaire. Donc, elle est partie, elle s'est éloignée. On l'a vue rentrer dans un banc de nuages. Mais assez curieusement, on ne l'a pas vue en sortir. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que quelques instants plus tard, on l'a entendue à nouveau parler. Ouais. Et puis, on a envoyé un avion qui arrivait. On lui a dit, vous devriez aller voir, essayer de la guider, parce qu'elle a un problème. Elle a disparu complètement.
On n'a plus jamais eu de nouvelles de cette femme pilote.
Et il y a eu plusieurs cas d'avions comme ça. Des cas comme ça, on en a plusieurs avérés.
Quelle est l'explication plausible, entre guillemets, parce que c'est quand même pas évident. J'imagine qu'on part dans des théories.
Moi, je vais dire hallucination.
Distorsion du temps.
Alors, c'est un ami qui travaille dans la physique qui m'a dit que c'est un phénomène de distorsion de temps, tout simplement. Elle est rentrée dans une faille de temps et puis elle y a disparu.
Tout simplement.
Et un jour, un géologue, en le ratant, va découvrir les restes d'un avion dans du rocher. Elle aura remonté le temps sur plusieurs centaines d'années. Ou peut-être aura-t-elle avancé dans le temps à un moment où tout aura été effacé.
Vous qui êtes historien de l'aéronautique, Bernard Marc, vous pensez que ça existe, les failles temporelles?
Ça, je ne sais pas, je suis dans l'aviation.
Non, mais vous aviez l'air de prendre cette explication pour,
Écoutez,
pour argent comptant.
Faute de mieux, moi, je dirais. C'est vrai que quand on n'a plus d'explication à donner rationnelle, moi, je me suis tourné vers des gens qui savent, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le temps, et m'ont dit, mais le temps est élastique, on peut peut-être éventuellement leur monter.
Je reviens à mon hallucination. Est-ce que c'est possible?
Là, c'est impossible. On verra d'ailleurs, il y a plusieurs cas.
Pourquoi?
Parce qu'une hallucination. La fille n'aurait pas disparu. On l'aurait revue à un moment.
Et ils sont deux dans l'avion.
Ils sont deux dans l'avion. Au sol, il y en a des tas qui les voient. Il y a des dizaines de personnes qui les voient. Et surtout, il y a les échanges radio. Enfin, il y a le monologue, puisque ça part dans les deux sens, mais personne ne s'entend.
Bernard Marc, vous publiez avec Jean-Claude Bourret Le Triangle des Bermudes aux éditions de l'Archipel. Et parmi les témoignages surprenants, il y a celui d'un marin du paquebot Queen Elizabeth. On est à quelle époque? Qu'est-ce qui lui arrive?
Le Queen Elizabeth, à l'époque, se rend, c'est un pépère ou une mémère, qui se rend et termine sa carrière gentiment par un voyage entre Nassau et New York. Tout va bien, c'est le matin, on est sur une mer d'huile, c'est le triangle quand même, mais le triangle, il est endormi aussi. Et on a deux marins, deux stewards, qui sont en train de se préparer leur service et qui boivent leur petit café. Et puis tout d'un coup, ils n'entendent rien, mais ils voient un point se rapprochant du bateau par tribord. Et puis, il y en a un qui connaît un peu l'aviation et qui identifie un Piper Comanche, qui vient vers le bateau, mais qui se rapproche très vite, mais sans faire de bruit. Et tout d'un coup, à moins de 100 mètres du bateau, l'avion plonge dans la mer, sans faire de bruit, sans une éclaboussure, et il disparaît. Les deux là se regardent. Je ne sais pas s'il faut analyser le contenu de leur tasse, mais
il faut commencer par ça, c'est sûr.
Ils se regardent et puis il y en a un qui part tout de suite, Sander, qui part tout de suite prévenir l'officier de quart, qui lui aussi a vu l'avion se rapprocher. Et on met tout de suite le
bateau. Donc ça fait trois témoins quand même.
Trois témoins, ouais. Avec des angles différents. Mmh. On met tout de suite le bateau en panne et puis on envoie une chaloupe sur les lieux. On n'a jamais rien retrouvé.
Alors que normalement, quand un avion se crache en mer, il y a des débris, il y a de l'huile, il y a tout ça, non ?
Il y a des débris, de l'huile. Et ouais. D'ailleurs, dans le cadre du vol 19, un avion était parti à leur recherche. On l'a mis aussi à un gros hydravion. On sait qu'il a explosé. On a retrouvé de l'huile parce que le lendemain matin, des bateaux qui rentraient au port avaient la quille qui était imprégnée d'huile. Donc l'avion avait laissé des traces.
Mais là, revenir sur ces marins du Queen Elizabeth, là encore, l'explication, c'est il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Et on est vraiment dans le mystère du triangle.
Sander, qui avait pris l'initiative d'aller voir l'officier de permanence, a eu peur qu'on le prenne pour un fou, mais on lui a donné raison. Donc on a enterré, si je puis dire, on a noyé l'événement.
On a encore d'autres histoires mystérieuses à vous raconter sur ce triangle des Bermudes. Il y a peut-être quand même une explication liée au magnétisme des histoires de pôle nord, pas nord. On va savoir ça tout de suite. Papa Tango Charlie sur RTL, Mort Schumann qui noie sa solitude dans le triangle des Bermudes.
Et nous sommes en compagnie de Bernard Marc, historien de l'aéronautique. C'est lui qui est aux commandes de notre avion de curieux à nous, grâce à vous. On a appris tout à l'heure que c'est un chercheur américain qui a inventé ce nom dans un article paru dans une revue en 1964. Article titré « Le mortel triangle des Bermudes ». Et voilà, la légende et peut-être même la réalité même a été lancée. Depuis plus de 50 ans, nombreux sont ceux qui cherchent à expliquer les naufrages, les disparitions que vous nous racontez depuis tout à l'heure, Bernard Marc, qui ont eu lieu dans cette zone. Et d'ailleurs, les ufologues ne sont pas en reste. Pourquoi les extraterrestres s'intéresseraient-ils au triangle des Bermudes ?
Ah ben, il y a une très bonne raison qu'avancent les Américains. Il y a Cap Kennedy, Cap Canaveral qui n'est pas très loin. Alors on se dit que peut-être les petits hommes verts voulaient venir photographier les installations, savoir comment ça progressait. Mais ils s'y intéressent aussi, les ufologues, pour des raisons un peu historiques, hein, parce qu'on dit que c'est la zone où reposeraient les restes de l'Atlantide. Et que les Atlantes avaient réussi à mettre au point un système d'accumulation d'énergie dans des cristaux, énergie solaire dans des cristaux dont l'un d'eux aurait explosé un jour, déclenchant une sorte de séisme qui aurait englouti l'Atlantide.
C'est-à-dire que l'Atlantique se trouverait, l'Atlantide, sous le triangle des Bermudes ?
Une partie, oui. Ah oui. Puisqu'on dit qu'elle aurait été cassée en trois morceaux. Hein. Oui. On a le dernier récit que l'on a, c'est Platon. Le dernier morceau aurait sombré il y a 12 000 ans. Mais la catastrophe aurait quand même mis du temps à gagner, parce qu'on sait que la première rupture remonterait à plus de 28 000 ans. Voilà. Mais
alors moi, j'aime bien m'appuyer sur des témoignages, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre, Bernard Marc. Et là, c'est un peu loin pour trouver des témoignages, mais il y a une histoire qui est assez troublante quand même. C'est l'aventure du Yamacro. Alors, c'est quoi déjà ? C'est un avion ou un bateau, ça, le
Yamacro ?
C'est un ancien remorqueur,
dragueur, etc., qui a été transformé en bateau de sauvetage.
Et les marins ressentent quelque chose de très particulier en approchant de cette zone du triangle des Bermudes. Qu'est-ce qui leur arrive ?
Ils sont en plein dedans, hein. C'était un soir, il est 1h30 du matin, tout se passe bien, là encore une fois, l'opérateur radar roupille à moitié devant son scope, parce qu'il sait qu'il n'a pas de terre en vue, la première terre est à 1200 km, ils sont bien, donc il n'y a pas de... Puis tout d'un coup, il voit apparaître une terre devant lui, à moins de 45 km. Alors il appelle l'officier, qui peut-être là aussi doit humer sa tasse de café, se demander s'il n'a pas bu, parce que quand même une terre, lui, connaît bien la zone, et il n'y a pas de terre, à moins qu'une éruption volcanique, parce qu'il y en a quand même une zone très au sous-sol qui est très très actif, et donc il y a peut-être eu une éruption, puis une île a pu jaillir.
On en a parlé ici même, on appelle ça les îles à éclipse, îles qui apparaissent et qui disparaissent.
Donc peut-être est-ce le cas, et donc ils continuent leur route, et puis tout d'un coup, là, ça devient un petit peu inquiétant, parce qu'ils se trouvent devant une masse un peu bizarre, qui flotte à pas très haut, peut-être à moins d'un mètre du niveau de la mer, une masse énorme.
Gazeuse ?
C'est un peu ouateux. Ouais. Et le capitaine décide de rentrer dedans. Et à mesure qu'il s'avance à l'intérieur, il commence à avoir des sautes de courant. Eux-mêmes ont des quintes de toux, c'est pas très agréable. Et les moteurs commencent aussi, eux, à tousser. Et puis finalement, au moment où le commandant va donner l'ordre de faire demi-tour, le navire sort de cette sorte de gros bulbes gazeux qui flottaient sur l'eau, mais qui avaient quand même qui avaient une signature radar. Donc, ils ont été extrêmement surpris de cette rencontre. Il y avait des lumières, ils ont vu aussi des lumières, ils n'ont pas pu les expliquer. Mais ça, c'est à rapprocher d'autres phénomènes.
Mais ça, on l'a vu qu'une fois, ce bulbe gazeux, ou il a été observé par d'autres marins plus tard?
Alors, ça a été observé par d'autres marins qui ont même vu des engins rentrer à l'intérieur, une sorte de lumière rentrer à l'intérieur et en sortir. Alors, les ufologues ont tout de suite avancé une théorie en disant, mais ils savent où se trouvent les cristaux, parce qu'il reste des cristaux de l'Atlantide, et ils viennent les chercher pour se regonfler les batteries. Voilà, tout simplement. C'est une théorie.
Alors, sur ce triangle des Bermudes, il y a une autre théorie, alors qui elle est beaucoup plus scientifique, qui a trait au magnétisme, c'est ça? Une anomalie magnétique, ce serait quoi cette anomalie?
Il y a tout là-bas, hein. Vous trouvez tout, c'est la Samaritaine on trouve tout là-bas.
Des légendes.
Vous avez des tempêtes, vous avez le Gulf Stream qui naît là, donc c'est puissant, ça brasse, ça bouge, etc. Vous avez des hauts fonds, puis à côté des abysses de 10 000 mètres, alors donc c'est des différentiels qui sont très importants au niveau des courants. Vous avez donc, alors c'est la création de, ça crée des turbulences, donc automatiquement des perturbations atmosphériques, mais on dit aussi qu'il y a des angones.
C'est quoi les angones?
Alors les angones, il y a le pôle nord réel, le pôle nord magnétique. Mais au large de la Floride, les deux se chevauchent parfois.
Donc le pôle nord réel et le pôle magnétique se chevauchent. D'accord.
Mais il y a des fois des distorsions. Et quand il y a une distorsion, la boussole, l'aiguille, c'est pas où donner, justement, c'est pas où aller. Et c'est là que l'aiguille se met à tourner dans la boussole. Et c'est là qu'ils sont perdus.
Et donc, sur des petits avions, par exemple, ou sur des avions de l'époque dont on parlait, c'est-à-dire les années 40, 50, 60, ça pouvait avoir un impact et donc désorienter les pilotes, c'est ça?
C'est arrivé qu'il y ait quand même des gens qui survivent à ça et qui disent, voilà, ma boussole était affolée, elle tournait comme un ventilateur, hein. C'était incroyable, l'aiguille ne savait plus où aller. Donc ça, c'est des phénomènes magnétiques. Mais le phénomène magnétique n'explique pas tout, et maintenant, bon, les avions sont équipés de telle façon à éviter ce genre d'incident.
Donc, vous diriez qu'on peut expliquer quel pourcentage? 99% de disparition, et il reste 1% vraiment mystérieux pour vous, vous avez enquêté avec Jean-Claude Bourret pendant un certain temps sur ce triangle des Bermudes.
Alors, avec Jean-Claude, nous allons être honnêtes. Oui. Parce qu'on n'a pas pu enquêter sur tous les cas. Oui. Mais on se rend compte que dans cette zone, il y a aussi pas mal de trafic divers. Donc, il y a des avions qui ont des plans de vol, qui ne respectent pas. Il y a des avions qui annoncent un départ et qui n'arrivent pas, etc. Des bateaux, c'est pareil. On sait aussi qu'il y a des bateaux, même de gros bateaux, qui ont traversé au mauvais moment, qui étaient là au mauvais endroit, qui ont été éparpillés par les courants. Et puis, comme il y a ce qu'on appelle des trous bleus, dans les îles, c'est-à-dire qu'ils ont pu être aspirés, des morceaux être aspirés dans les trous bleus, et on ne les retrouve pas. Donc c'est arrivé. On a bien sûr aussi des avions militaires qui ont disparu. C'est au cours des essais qui étaient faits, il y a souvent des avions qui disparaissaient, mais c'était des disparitions naturelles. Je dirais oui, 90%, mais il reste 10%.
De mystère, c'est ça qui vous plaît, qui vous excite et qui nous donne envie de lire votre livre, Bernard Marc, que vous co-écrivez avec Jean-Claude Bourret, qu'on salue d'ailleurs, parce que c'est un invité adorable, un très bon journaliste. Le triangle des Bermudes et autres histoires vécues, c'est aux éditions de l'Archipel. Et ben, on continue de creuser ce mystère
beaucoup.
Des Bermudes.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt. Allez, tout de suite, un champion français. Dans la curiosité, on vous raconte l'histoire de Jean Robic, 20h du Tour, 1947.